canette de bière, un paquet de cigarettes même pas ouvert, des Marlboro. Ce n'est pas ce qu'il préfère, mais bon, à choisir, il aurait préféré des gitanes. Ah, des gitanes, avec leur beau paquet bleu, la danseuse à volutes. Ça doit même plus exister, ces cigarettes-là. Une pure merveille, ce paquet qui s'ouvrait à l'horizontale comme un étui à cigarettes. C'était classe. Et pourtant, c'était une marque destinée aux classes populaires. Son père, qui était ouvrier, fumait des gitanes. Mais le pharmacien aussi. Et puis des poètes, comme Gainsbourg et Ferré. Même Chirac aimait les gitanes, il se souvient. Aujourd'hui, il est condamné à fumer des blondes, car tout le monde fume des blondes, ou des roulées. Surtout des roulées, en ces temps de misère. Il sourit. Il est heureux. Il sent qu'il va devoir décider quelque chose. Il plie le billet en quatre et le garde dans sa main. Ça devient une petite chose dure qui s'y réchauffe. C'est son trésor. C'est un jeune homme qui vient de lui donner tout ça. Il s'est approché de lui, l'a salué, lui a donné du monsieur, lui a parlé de longues minutes, mais il n'a pas bien entendu ses paroles avec le brouhaha du métro qui arrivait à ce moment-là. Mais pas besoin de mots, il a tout compris quand l'homme a ouvert la revue au milieu et là, il lui a signalé la photo en double page. Et la photo, c'était lui, avec son manteau, son bonnet, son écharpe, exactement comme aujourd'hui. C'est une photo en noir et blanc, et bien sûr qu'il se reconnaît. Le gars lui a même fait signer une lettre d'autorisation. Ça, c'est une surprise. Quand il va montrer ça aux autres, ils vont le respecter. C'est pas tout le monde qui a sa photo dans les journaux, et encore moins dans une belle revue comme ça. Il y aura des jaloux, c'est certain. Il y en a qui voudront lui piquer sa revue, ça aussi c'est à peu près sûr. Et il y en a qui se foutront de sa gueule, qui deviendront agressifs. Ça fait longtemps qu'il n'a pas touché ce papier si doux et glissant sous ses doigts. Il a une idée. Il pose la revue par terre devant lui. Il est fier, il se sent important. Il se voit de l'extérieur, c'est pas si mal. Les gens passent et il y en a qui s'attardent, qui se retourne même. Il se demande à nouveau ce qu'il va faire de ses 50 euros. Manger une choucroute à la brasserie chez Jenny? Ils le laisseront jamais entrer avec ses chaussures trouées, même en montrant son billet de 50 euros. Il ne doit pas l'abîmer, son billet. Il le déplie et le regarde encore. Mais il faudrait pas qu'on lui vole. Il le défroisse et le plie en trois et le garde dans sa main. Il se dit que le jeune photographe, si c'était un malin, il ne serait pas parti si vite. Il lui tirerait le portrait à nouveau, ici même, assis, avec sa photo posée par terre devant lui, et ça, ça ferait une sacrée photo. Mais le jeune homme a disparu comme il est venu, sans lui laisser ni son nom, ni son téléphone. Il aurait proposé l'idée au photographe, et il lui aurait dit « On fait 50-50 pour cette photo-là. Dommage. » Sûr qu'ils vont se foutre de lui les autres. Quoi ? 50 euros pour avoir ta gueule ? Tu t'es fait avoir. Avec ton allure, c'est 1000 qu'il fallait lui en tirer. Et ils allaient lui gâcher son plaisir. D'ailleurs, il ferait mieux de ne pas leur dire qu'il a touché 50 euros. Ils voudront lui piquer. Ils diront, t'as 50 euros, tu vas payer ton coup, sinon t'es vraiment un crevard. Même la revue, il sent que ça ne peut que lui attirer des ennuis. Il va rester quand même un petit peu avant que les autres arrivent. Il se dit qu'il va peut-être en tirer quelque chose de cette photo. Il lui vient à l'idée de prendre le métro et d'aller à la rive gauche, à Saint-Germain-des-Prés. Mais là-bas, il y a trop de touristes, tous avec leur appareil photo. Il imagine un attroupement autour de lui et finit l'effet de surprise. Non. Le mieux est encore de rester là, en espérant que le photographe repasse. Et là, il lui dirait « Top là, je reprends la pose et on fait 50-50, 50-50. » Et là, les autres, ils se foutraient plus de sa gueule, mais ils l'enviraient et ça serait pire. Deux jeunes étudiantes passent avec des cartons à dessin sous le bras. Elles rient en voyant la scène, lui, assis avec sa photo en double page, posée devant lui à même le sol. Il entend l'une dire à l'autre « On dirait une performance, un montage. » Il a envie de leur dire « Non, mesdemoiselles, ne riez pas, ce n'est pas un montage, c'est authentique. » La photo est bien réelle. Et sur cette magnifique photo, c'est bien moi. Elle s'éloigne en se retournant à nouveau et cette petite phrase se répète dans sa tête. Oui, oui, c'est bien moi. Et il se sent fier à nouveau en caressant son trésor tout chaud à l'intérieur de sa main. Et il sourit. C'est ça la vie d'artiste. Les deux jeunes filles pouffent de rire en se retournant, comme si elles avaient entendu sa pensée. C'est les autres qui rigoleraient. Ils diraient, tu parles d'un talent, c'est parce que t'étais là, c'est tout. Ça aurait pu être n'importe qui. Ça manque pas les mecs sur les bancs et par terre à photographier. C'est le hasard, c'est tout. Et ils pensent, oui, c'est sans doute une part de hasard qui m'a mis là, sur ce banc. Mais quand même, c'est moi qui l'ai choisi le photographe. Moi entre tous. Et c'est moi qui suis sur la photo. Et c'est moi qui les ai les 50 euros. Mais ça, vous le saurez jamais. Ce hasard-là, il n'était pas écrit pour vous. Bande de nazes.
La semaine prochaine, une voix différente et critique venant de Palestine, entretien avec Nour Bader, chercheuse féministe palestinienne, autrice de L'ingénierie coloniale du contrôle des corps de femmes, un titre provisoire de son ouvrage en arabe sur la souffrance et la domination du corps des femmes, notamment des prisonnières politiques. Cinéma avec Riposte féministe, un film de Marie Pérennes et Simon Depardon, Pacifiction, un film d'Albert Serra, la rétrospective Louis Malle, enfin, Les Repentis, un film d'Issia Bolein. Très très bonne semaine et surtout, tenez bon.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat s'est formée ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Même malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tuerie, plus de combat, que vas-tu faire? C'est fini le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, te commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade, mais comme on tire pas vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police parachutiste.
Voilà. Bonjour aux auditeurs.
Bonjour.
Nous avons le plaisir alors d'avoir comme invité Céline Samy.
Bonjour.
Pour Monsieur Proust. Voilà, le spectacle s'intitule Monsieur Proust, on va en parler. Anne qui fait des chroniques théâtrales sur Théâtre Passion, sur Internet. Oui. Moa qui attend ses invités.
Voilà, qui vont venir.
J'espère qu'ils ne vont pas faire les arlésiennes. Hein.
J'espère qu'ils vont venir. Bon. Il y a le directeur du théâtre El Kalam de Colombes. Et puis... on ne m'entend pas assez bien, malgré ma voix. Voilà, on m'entend bien là? Très bien. Voilà. Donc, directeur du théâtre El Kalam de Colombes. Et puis Fred, que j'avais invité, mais qui s'était désisté et qui m'a promis de venir cette fois-ci, sans faute, tout ça, qui a joué dans Bérénice, de Racine, voilà. Voilà.
Voilà. Et donc, alors, j'ai amené une petite clé, parce qu'il y a un texte de Jean-Marie sur cette petite clé. Ce sera après Céline, après Anne. Mais quand même, on le passera pour lui faire un petit bonjour. Voilà. Excuse-moi, mais je suis un peu... voilà, je suis un peu prise et puis j'ai mal dormi. Hein, voilà, c'est mon problème. Je suis dans le cirage.
Bon, on va essayer de faire avec.
Eh oui, c'est ça, c'est le problème. Il y a trop de stress. Alors, Anne et moi, on a vu Monsieur Proust.
Et on a aimé.
Et quelque part, ça, je me permets de... Monsieur Proust, le spectacle s'intitule Monsieur Proust, mais c'est Monsieur Proust par Céleste Albaret. Oui. Parce que en lisant le dossier de presse, j'ai cru comprendre que Yvan Moran, hein, on connaît assez bien parce qu'il est venu plusieurs fois ici pour présenter des spectacles, notamment La Chute de Camus, Les Alligators avec Denis Lavant, enfin bref. Il est déjà venu ici, je connais bien. Et donc, lui, et ce qui l'intéresse, c'est le personnage de Céleste Albaret. Parce que, effectivement, si on a eu l'occasion d'entendre les entretiens à la radio de Céleste Albaret, avec un journaliste, Georges Belmont, voilà, quand même, que c'est assez conséquent, hein, c'est 49 heures, oui. Etc., c'est quand même très important, quand même. Et en plus de ça, elle parle d'un trait, enfin, je veux dire, elle n'a pas vraiment d'hésitation quand elle parle. Hein. Donc, c'est à partir de ces entretiens qui ont été réalisés... Quand elle avait 82 ans.
Dans les années 73.
Voilà, elle avait 82 ans.
Mais ils en ont fait un livre. C'est-à-dire qu'il y a eu les entretiens et ils ont fait un livre qui est sorti, qui s'appelait Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Donc c'est elle. C'est vraiment, il a retranscrit mot à mot sa parole.
Voilà. En fait, c'est Monsieur Proust par Céleste Albaret, on pourrait dire.
Hein. Oui.
Voilà. Parce que. Sur l'affiche, sur le dossier, Céleste Albaret est un peu tout petit.
Mais ça ce sont les publicitaires, hein, je n'y peux rien. Non, mais c'est parce que c'est vrai qu'elle, voilà, ça s'est intitulé Monsieur Proust, puisque c'est sa relation d'elle avec Monsieur Proust. Ce Proust que personne ne connaît, qu'elle a connu dans une intimité, et que, bon, elle n'est pas très objective, elle l'aimait vraiment profondément. Donc elle a passé 10 années... et surtout 8 ans seule à seule avec lui, et ça a été une grande histoire, ça a été son histoire à elle d'amour, finalement, même si elle s'est mariée, même si elle a
des enfants. Oui, c'est ça, mais... exactement. Oui. Ça, on a l'impression, quelque part, c'était, comment dire, c'est pas un roman à l'eau de rose, mais elle est un personnage un peu... parce qu'elle était quand même beaucoup plus âgée qu'elle, enfin, elle était quasiment amoureuse de lui.
Oui, mais il faut imaginer, comme elle dit, elle est venue à 22 ans à son service. Et à l'époque, les femmes, bon, s'arrêtaient quoi à la 7e, au CM1, CM2. Donc, elle savait lire et écrire, ça, c'est certain. Mais Proust a senti en elle cette intelligence, cette vivacité.
Cette curiosité, surtout.
Cette curiosité de la vie, des choses. C'est vrai qu'il l'a aidée à lire, il lui a donné des livres à lire, mais il a trouvé quelqu'un en face qui était prête à recevoir tout ça. Céleste était...
Elle était vierge, quelque part.
Enfin, oui, je veux dire, c'est la rencontre de sa vie.
C'était un terrain vierge. Et en fait, oui, c'est la rencontre de sa vie, parce que elle a accès à la connaissance aussi.
Oui, et je pense que tous les deux se sont aimés comme ça. Se sont aimés dans...
Lui, il était content
d'elle. Et elle était à la fois pour lui sa mère et son enfant. Elle le dit elle-même. Oui. Et elle a découvert quelqu'un qui lui a ouvert des portes, des horizons, des rêves. Des rêves, et je pense que pour l'époque, c'est voilà, ils se sont rencontrés juste avant la guerre de 14. C'est pas des époques très très drôles, on va dire, hein, quand même. Et surtout pour une fille de Lozère qui n'était jamais sortie de chez elle, qui se retrouve du jour au lendemain propulsée dans ce monde, et surtout avec cet homme qui n'avait que de cesse de vouloir finir son œuvre. Et elle l'a aidé. Ils ont fait des paperolles ensemble. C'est vraiment, je pense que c'est une. Moi, ce qui me touche énormément dans l'écriture, dans le livre en entier, pas que dans l'extrait, parce que sur 300 pages, il en a tiré que 40 pages, on va dire.
Bah oui, évidemment, oui.
Il a centré sur la relation entre deux. Mais sur les 300 pages, ce qui me touche énormément chez cette femme, c'est que c'est simplement 10 ans de sa vie. C'est de 22 ans à 30 ans, ou 20 ans à 30 ans. Et ça l'a marqué à vie, c'est-à-dire c'est son histoire, c'est cette rencontre. Et moi, petite fille, j'ai toujours rêvé, comme toutes les petites filles, peut-être du prince charmant, mais de ce genre d'amour complètement dingue. Et je trouve absolument magnifique qu'elle l'ait rencontré.
Oui, c'est ça. Alors, effectivement, le prince charmant, moi, j'ai toujours cru que je le rencontrerai jamais, mais c'est pas grave. Mais je trouve que c'est joli, c'est vrai, c'est joli comme image. Parce que, en fin de compte... c'est un conte de fées, oui.
C'est un conte de fées. Il lui a ouvert des horizons, des rêves. Elle a pu s'exprimer toute sa vie après, parce qu'il est mort, elle avait 30 ans. Elle était déjà mariée avec Odilon, qui était le taxi de Monsieur Proust. C'est grâce à son mari qu'elle avait pu rencontrer Monsieur Proust. Mais après, toute sa vie, elle n'a pensé qu'à lui. Et il paraît que quand elle est... Parce qu'elle a d'abord eu un hôtel, après elle s'occupait du musée Ravel. Mais il paraît que quand les visiteurs venaient voir le musée Ravel, elle ne parlait que de Proust. C'est-à-dire qu'elle ne parlait pas du tout de Ravel. Donc les gens se retrouvaient avec quelqu'un qui parlait de Proust. Et elle a parlé... En effet, à 82 ans, à Monsieur Belmont, mais elle est morte à 93 ans. Elle est morte
très âgée,
le 25 avril 1984. Donc, on aurait pu toutes
la connaître,
tous la connaître.
Oui, oui. Mais d'ailleurs, très souvent, on écoute à la radio ces entretiens parce qu'on peut les récupérer en podcast sur France Culture.
Tout à fait.
Ça s'écoute. Non-stop, parfois. On a du plaisir à l'écouter parler.
Elle est vraiment, oui. Elle est étonnante. Ouais. Elle est vraiment...
Et puis,
Et ce spectacle, c'est vrai qu'il s'appelle Monsieur Proust, mais c'est pas pour parler pour la énième fois de Proust. Bon, je pense que c'était l'occasion, parce que c'est son anniversaire de sa mort, mais de ses 100 ans. Mais c'est surtout pour découvrir cette femme qui a eu un regard très, très pertinent, une grande acuité de ce monde-là et de cet homme-là. Qu'on connaît tous plus ou moins, ou qu'on croit connaître. Parce que, bon, voilà, il fait partie de notre patrimoine, Monsieur Proust. On l'a pas tous lu. Moi, j'avoue, très honteusement, que j'ai lu que du côté de chez Swann et Les Jeunes Filles à Londres quand j'avais 18 ans. Et je n'ai rien compris. Ça m'ennuyait. Je le dis vraiment, profondément. Et j'avais une image un peu d'un mondain dandy. Et elle donne l'image d'un être humain qui a un enfant, qui peut être capricieux, qui a des rêves, mais qui a surtout un absolu pour finir son œuvre. Il veut finir cette œuvre. Et, et lui, il a décidé d'être comme un anthropologue, de montrer cette société dans laquelle il est. Et je trouve ça absolument magnifique. Et ça, elle m'a donné envie de relire Proust.
Oui, bah, c'est-à-dire que... parce que c'est... Je pense que... Yvan Morane, il a bien choisi les extraits du livre.
Il a fait un très très beau montage.
Oui. effectivement, alors ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une petite fusion, quoi, entre... Parce que vous jouez tous les personnages. Vous jouez Proust et vous jouez...
André-Gide aussi.
André-Gide.
Ça, c'est pas mal.
Et vous jouez donc Céleste Albaret. Bah oui. Et ça fait un peu ping-pong, c'est-à-dire que vous changez un peu de voix à chaque fois.
Oui, avec une voix masculine ou féminine ?
Non, parce que c'est pas vraiment... Non, nous, on est parti du fait, parce que c'est vrai que j'ai écouté les enregistrements de Céleste et elle parlait avec un accent. Elle était de Lozère, donc elle roule les airs. Et je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt si on ne fait qu'une retranscription véridique. D'elle, puisque à ce moment-là, on n'a qu'à l'écouter elle, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est ce que j'ai ressenti d'elle, et surtout, je me disais, mais quand on raconte dans la vie des histoires avec plusieurs personnages, malgré nous, on change pas complètement, mais on change un tout petit peu la voix. C'est, voilà, on dit, ah, ma grand-mère, elle faisait ça, ou, hein. On a ce côté-là. Ah. Donc, j'ai pas voulu non plus, parce que je ne sais pas du tout le faire, changer complètement, mais c'est vraiment comme un enfant qui raconte, parce que je pense qu'elle est très enfantine dans son cœur, qui raconte ce qu'elle a vu et comment elle l'a vu. Donc, on change de voix, on fait, attention, là, voilà, voilà.
Oui, d'accord.
Vous êtes lumineuse, vous êtes solaire quand vous jouez ce personnage. C'est vrai.
Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est... Oui, c'est ça. Vous êtes très solaire. Mais ce que j'ai bien aimé... Alors, c'est pas tout le temps, hein, parce que parfois, on l'entend grogner, Proust. Mais la plupart du temps, quand vous le faites parler... quand c'est Céleste qui le fait parler, il a une voix très douce.
Mais je pense qu'il était très doux. Moi, personnellement, quand je lis Céleste, en tout cas, quand je lis Céleste, parce que c'est sa vision à elle, c'est son Proust à elle, mais elle le montre toujours très, très tendre, très présent, à la fois capricieux, quand même, parce qu'il lui, il la faisait tourner un peu en bourrique, hein, ça, c'est pas dans le montage d'Yvan, mais il y a des passages où elle courait au milieu de la nuit, elle allait chercher une sole au Ritz, elle revenait, elle repartait.
Mais elle était extrêmement dévouée quand
mais
même.
Mais elle était totalement dévouée.
Ça existe encore des femmes dévouées comme ça?
Moi, celui que je plains le plus, c'est ni elle ni Proust, c'est son mari à elle, Odilon, qui pendant 8 ans s'est retrouvé sans sa femme, parce qu'elle ne vivait que pour Monsieur Proust, et comme il vivait la nuit, elle vivait la nuit, et le jour, elle dormait. Et son mari, lui, était taxi, donc le jour, il allait travailler.
Et puis, il allait à la guerre, de toute façon, il était au front,
il a fait les taxis de la Marne, son mari.
Ah oui, en plus.
Il a fait partie des taxis de la Marne. Mais c'est vrai que, après-guerre, parce que c'est quand même de 18 à 22, pendant 4 ans, ils ont vécu au-dessus de Monsieur Proust, mais elle ne vivait que dans la tente de Monsieur Proust pour lui faire son café d'une certaine manière. Et j'avais vu un interview de Cocteau qui appelait Céleste le Cerbère, quand même.
Ah bon, gentil, ça.
Oui, il disait que pour aller voir Monsieur Proust, il fallait passer par le Cerbère Céleste qui reniflait les invités.
Ah bon?
Parce qu'à l'époque, comme l'asthme, il était très asthmatique, elle ne voulait absolument pas que quelqu'un sente même un parfum ou une fleur qui puisse déclencher une crise d'asthme. Elle le protégeait, elle était complètement... c'était sa muraille. Hein.
Une vraie maman.
Ah ouais, une vraie maman. Mais d'ailleurs, dans le livre, elle le dit, il lui dit, vous êtes beaucoup mieux à remplacer maman auprès de moi.
Eh ben voilà.
Voilà. Il lui dit...
Oui, parce qu'à un moment donné, elle le questionne. Hein.
Oui.
Elle lui dit, mais comment se fait-il qu'un homme aussi charmant que vous, aussi doux, n'ait pas de femme ni d'enfant? Et il lui dit...
Peut-être qu'elle ne voulait pas se rendre compte.
Elle n'a jamais voulu. C'est-à-dire que par rapport à l'homosexualité de Proust, elle a dit que c'était faux. Dans le livre, elle le dit. Elle dit c'est faux, ça fait partie d'une mythologie qui n'est pas réelle, qu'elle, pendant ses 10 ans, elle n'a vu aucun homme. Voilà, ce n'était pas du tout cette réalité-là.
Oui, ça ne fait pas partie de son...
Voilà.
Elle l'idéalisait aussi.
Oui, puis en même temps, elle l'a connue à la fin de la vie. Donc, je pense que Proust, là, vraiment, avait décidé, sentait que sa santé était défaillante et il fallait vraiment finir cette œuvre.
Oui, il est fort possible, d'ailleurs, qu'il n'avait aucune relation.
Voilà, qu'il soit complètement... on ne saura pas, mais c'est... Voilà, ce qui est beau, c'est cet amour de cette femme.
Oui. Non, je suis en train de penser, est-ce qu'à la porte... Ça, si ça sonne, non ? Attends, je ne m'inquiète pas. Voilà. Toi, tu as vu le spectacle?
Oui, j'adorais. Oui. Alors oui, j'ai trouvé. Donc, je vous ai dit, vous étiez lumineuse. Alors, je me suis dit à un moment, est-ce que c'est pas aussi, elle joue aussi d'une façon un peu idyllique, mais bon, c'était Céleste en fin de compte qui idéalisait. Parce que j'en ai parlé après avec des amis qui sont très proustiens, pur et dur. Oh là là, mais attends, elle était pas commode. Ceci, oui. Ça. Bon, c'est vrai, sans doute. Mais ce qu'il y a de beau. je trouve, c'est que Proust a pu révéler une jeune fille de la campagne. C'est pas péjoratif de ma part, hein, mais je trouve que ça beau de sa part de lui avoir fait connaître les Trois Mousquetaires. D'ailleurs, c'est drôle quand elle parle de Milady, c'est marrant.
Elle le dit. Non, il lui a donné le. Bon, elle n'a pas eu le temps de dire après. Elle le dit plus tard, les romans de Balzac, parce qu'elle avait beaucoup trop de travail avec lui. Oui. Mais c'est vrai qu'il lui a ouvert. Voilà, cet univers de la lecture, et quand on pense, parce que quand on le lit d'un trait, même moi, quand voilà, je l'ai lu, Monsieur Proust, je l'ai lu il y a longtemps, bien avant qu'Yvan me propose ça, mais je ne me remettais pas dans l'idée que cette femme, voilà, 1913, elle a 22 ans, les femmes s'arrêtaient en CM1, CM2, elles n'avaient pas tellement d'avenir à part être femme d'eux.
Femme au foyer.
Et d'ailleurs, elle s'ennuie. Ce qu'elle dit beaucoup dans le livre, mais qui l'a coupé, c'est que au départ, elle est vraiment comme une rasténique. Ce que dit son mari, elle s'ennuie, elle veut plus sortir. Elle est complètement déracinée à Levallois-Perret. Rien ne l'intéresse. C'est-à-dire que Proust a été un vrai soleil dans sa vie.
Tout à fait.
Et je crois que c'était réciproque, parce que Proust était très solitaire, finalement.
Oui, et il l'a décrit, il a toujours dit... Il y a une lettre où il l'a décrit en disant que, voilà, c'était une très grande, très belle femme, intelligente. Il était aussi très touché par elle, il l'aimait énormément, il la trouvait très délicate. Il savait qu'il fallait être très, très précautionneux avec elle pour lui apprendre des mauvaises nouvelles, parce qu'il paraît qu'elle pleurait très, très souvent. Elle était très émotive, voilà. Mmh. Ils étaient tous les deux, ils se sont rencontrés jusqu'au bout. Parce que c'est vrai, elle lui a fermé les yeux quasiment, elle était là. Et c'est fou, cette relation.
Moi, je sais qu'à la fin du spectacle... Pourtant, je ne suis pas très sentimentale, mais je crois que j'avais un peu les larmes.
Parce que c'est beau ce qu'elle dit. Puis elle est... moi, ce qui me fascine, c'est qu'elle est très, très... Oui. Elle est très précise sur les heures. Elle a une mémoire d'éléphant, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle dit 3h30, elle cite vraiment les heures, elle est là, elle sait tout ce qui s'est passé, et on sent qu'elle l'a noté dans sa tête, partout.
Oui, c'est assez incroyable, parce que quand elle a ses entretiens avec Monsieur Georges Belmont, les événements, ils se sont déroulés il y a 50-60 ans auparavant.
Ben oui.
Puisqu'elle avait 22 ans, ça fait presque 60.
Mais comme elle le dit, elle ne vivait que dans sa mémoire. C'est-à-dire que toute sa vie, elle n'a vécu que dans sa mémoire.
Ça veut dire qu'elle a refait...
Refait le film, et elle pensait qu'à ça. Elle dit d'ailleurs dans le livre, bon, ça n'est pas dans le spectacle, parce que ça n'a pas d'intérêt par rapport à ce que voulait montrer Yvan, par rapport à cette relation entre ces deux êtres. Mais elle dit que la seule personne qu'elle ait aimée autant que Proust, c'est sa fille.
Oui, elle a eu une fille quand même.
Odile.
Mais elle a eu après.
Oui, bien après. Toute sa vie a commencé...
C'est une parenthèse, voilà. Quoi. Je veux dire,
mais sa fille, Odile, elle l'a aimée autant que Monsieur Proust. Odilon, elle en parle très peu. Yvan m'a dit qu'il était mort alcoolique, assez jeune.
Alors.
Oui, bah... Parce que je pense que voilà, il s'est senti très délaissé par elle. Et sa fille est morte très peu de temps après elle, voilà. Mais elle est morte très très âgée. C'est-à-dire qu'on se dit que sa vie s'est arrêtée à 30 ans quand on a 92 ans.
C'est sûr, oui, oui.
C'est. Et en même temps, moi, ce qui me fascine, c'est qu'elle a rencontré ce grand amour. Voilà. Moi, ça me.
Oui, vas-y.
Oui, non, mais je voulais dire aussi que je dirais que la seule fois où elle le trahit, c'est quand elle lui fait faire des piqûres, parce qu'elle pense le sauver. Malheureusement, et là, il souffre encore plus, le pauvre. Et là, elle s'en veut. Je crois qu'elle s'en veut.
Moi, pour moi, alors, je n'aurai jamais l'explication, mais c'est vrai que quand j'ai lu, en tout cas, le montage d'Yvan, je lui ai dit, mais elle ne parle que pour se dédouaner, finalement, pour dire avant de mourir cette chose. Elle l'a trahi. Elle pensait ne jamais le trahir, ne jamais lui mentir. C'est ce qu'elle dit au départ. Elle dit, je ne lui ai jamais menti.
Oui.
Mais si, une fois, parce qu'elle voulait le sauver, parce qu'elle ne voulait pas accepter l'irrémédiable. Et c'est vrai que quand on lit le livre, ce qui n'est pas là dans le montage, on s'aperçoit qu'il ne mangeait plus rien, Proust, qu'il était complètement anorexique. Au bout d'un moment, il a eu cette pneumonie, mais il était déjà très faible. Et puis à l'époque, on soignait l'asthme en capitonnant les chambres, il était dans le noir, il se nourrissait que de son essence de café à la fin, et encore avec un peu de lait. Donc c'était... il a eu... Voilà.
Oui, parce que je pense que effectivement, le témoignage de Céleste Albaret, il est très précieux parce que en fait, il est unique.
Et puis c'est de l'ordre de l'intime, oui, de cet intime.
Ah, parce que sinon, on n'aurait pas de, on ne saurait pas, parce que c'est quand même un portrait de Proust qui est très différent de l'écrivain, je veux dire. Bon, l'écrivain, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il pense, mais là, elle. En parlant de lui, elle dégage quand même le portrait d'un homme qui était très humain aussi, oui. Au jour le jour, au quotidien, quoi. Voilà. Donc, oui. Ça, c'est. Je trouve que c'est très. Oui, comme je l'aimerais
répéter. Non, mais c'est précieux. C'est... Non, mais c'est vrai que c'est précieux parce qu'on a tous l'image du mondain, de oui. celui qui sortait.
Oui, voilà. Et puis de l'écrivain qui est un peu.
Qui rêvait, voilà, et qui rêvait de peut-être être fait partie de cette noblesse dont il ne faisait pas partie parce qu'il était bourgeois. Ça, ouais. Et c'est vrai qu'on découvre, alors, à l'occasion de ce 100e anniversaire, même son côté par rapport à sa relation avec son judaïsme, puisque sa mère était juive, voilà. Donc, c'est ce qu'elle dit, d'ailleurs, l'affaire Dreyfus l'a quand même beaucoup touchée. Mais c'était une époque où même son père était contre Dreyfus, donc ça l'a blessé, parce que c'était contre sa race aussi. Oui, si on peut appeler ça de race, j'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai que, voilà, on découvre un autre Proust que ce Proust mondain. Et je trouve que ce qui est bien, en tout cas dans ces anniversaires de centenaire, c'est découvrir par d'autres biais. J'étais allée au musée du judaïsme, donc où il y avait une très belle exposition sur Proust et le judaïsme. Céleste, elle c'est...
Mais Proust, c'est ma mère aussi.
Oui, mais c'est vrai que il a commencé à écrire vraiment sa recherche à la mort de sa mère. Mmh. Donc, parce que alors Yvan, qui est un grand proustien, m'expliquait que sa correspondance avec sa mère, on voyait quand même un enfant très très capricieux, très colérique, très voilà. Mais oui, mais quand sa mère est morte, c'est là où il a pu. Alors ce serait très freudien de dire que ça l'a libéré. Il a pu écrire cette œuvre unique au monde.
Mm-hmm. Ne s'entendant pas trop bien avec Robert, son frère.
Oui, et
moyen.
Oui, mais qui était pourtant le plus gentil à la mort de Proust. Céleste a toujours dit que Robert avait été très gentil avec elle.
D'accord.
Mais le reste de la famille, pas du tout. Et surtout la femme de Robert, etc. Tout le monde l'avait un peu.
Oui, c'était. Oui. Ouais.
Et comme elle dit, Gallimard ne lui a même pas offert un livre de Monsieur Proust.
Oui, j'ai entendu ça, oui. Je me souviens, oui. Alors, c'est une tradition ici, dans l'émission Dessous de scène. Mais je ne sais pas, est-ce que vous sentiriez de dire un petit extrait pour une live pour les auditeurs? C'est un peu difficile parce qu'on n'est pas du tout dans le contexte. Hein. Juste simplement pour avoir un... Après, on passera à la bande-annonce.
Oui. D'accord. Alors, je vais essayer. On va... la fin, parce que je trouve que c'est le plus beau moment. J'avais vécu dans un monde si merveilleux, auprès d'un homme unique, que je n'arrivais pas à me refaire aux banalités de la vie. Même les horaires normaux étaient un problème. Je ressemblais à un oiseau de nuit condamné tout à coup à ne plus vivre qu'au grand jour. Secrètement, je me réfugiais sans cesse dans le souvenir des nuits enchantées. Beaucoup de gens venaient me voir, comme l'avait prédit Monsieur Proust. Beaucoup d'autres m'écrivaient, je ne leur répondais pas, comme il l'avait prédit aussi. Gaston Gallimard m'avait adressé une belle lettre pour me déclarer qu'il ne saurait trop faire pour moi. Il ne m'a même jamais envoyé un livre de Monsieur Proust. Je me suis retirée de plus en plus dans ma mémoire. Là, je vivais. Souvent, il m'avait dit « Céleste, quand je serai mort, vous prendrez ici tout ce que vous voudrez. C'est à vous. » Le lendemain de l'enterrement, le professeur Robert Proust m'a demandé s'il existait un papier de Monsieur Proust exprimant une volonté me concernant. J'ai répondu qu'il n'y en avait pas à ma connaissance. C'était vrai. Il était mort sans laisser de testament. Il a insisté gentiment. Avais-je une idée de ce que son frère aurait voulu pour moi? Rien. Monsieur, merci. Et je ne veux rien. Puis les années ont passé. Jamais il ne m'a abandonné. C'était comme si, dans la mort, il avait continué à me protéger.
Ah oui, bravo. Oh, En vacances, oui, on va passer la voilà. bande-annonce. Ouais.
Bah c'est tellement beau ce qu'elle
dit. Ah bah oui, c'est oui, ça, oui, moi oui. ça me donne un peu.
C'est magnifique. Mais elle parlait comme lui, c'est ça qui est fou. C'est qu'elle s'était mise à parler comme lui des phrases qui n'en finissent pas. Donc c'est vrai.
Pendant 50 ans, j'ai refusé parce que je m'en étais fait la promesse de raconter l'histoire de ma vie auprès de Monsieur Proust. Et puis un jour, crac, deux coups de sonnette, c'est pour le croissant. Je le pose sur la soucoupe et me voilà parti. Je traverse l'entrée, puis le grand salon. J'arrive devant la quatrième porte. J'ouvre sans frapper. J'écarte la grosse portière de l'autre côté et j'entre. Gilles lui avait écrit. Il confessait avoir été beaucoup responsable, c'est le moins qu'on puisse dire, du refus de Swann. Puis tout à coup, le professeur s'est avancé et penché doucement sur son frère. Il lui a fermé les paupières, alors que ses yeux étaient toujours tournés vers nous. Souvent, il m'avait dit « Céleste, quand je serai mort, vous prendrez ici tout ce que vous voudrez. C'est à vous. »
Oui.
Non, pas du tout.
Alors, on va redire où ça se passe. Alors, oui, le spectacle, voilà. Donc, c'est au théâtre. Alors, ils mettent contemporain, lucernaire, jusqu'au 27 novembre.
Oui.
Voilà, à 19h, du mardi au samedi, et le dimanche à 15h30.
Voilà. Et juste le 3 novembre, on joue à Verneuil. On ne joue pas au lucernaire.
Ah, d'accord.
D'accord. Oui.
Bien, pas.
En tout cas, c'est un spectacle qui est très intense. Enfin, moi, j'ai trouvé. Hein.
Oui.
Mais c'est un seul en scène. C'est une seule en scène.
On oui, dit, c'est oui, vrai qu'on dit non, ça. Non, oui. Moi, à mon époque, on disait monologue. Je
suis
oui,
exactement.
Hein, absolument.
Mais absolument, on disait c'est un monologue.
Mais
voilà.
Là, oui, mais là, c'est pas tout à fait un monologue parce qu'elle joue tous les personnages.
Bon, mais c'est
un monologue. C'est un monologue quand même. Oui. Enfin, bon. C'est très vivant.
Maintenant, dit
très,
en scène, oui.
C'est très vivant, quand même. Oui, vous le jouez de façon. C'est quand même très vivant.
Ouais. Ah, bah, monsieur Gide, oui. Mais parce que c'est complètement dingue. Ce que, bon, je ne veux pas le dire là, mais la façon dont il parle, c'est complètement dingue.
Oui, tout à fait.
Moi, ça m'a fait tellement rire que. Voilà. C'est vrai qu'elle ne le portait pas dans son cœur.
On visualise, hein.
Ah oui.
Pendant que vous êtes en train de dire le. Ce monologue, justement, on visualise les scènes, hein, c'est pas mal. Hein. On voit Gide, on voit aussi le lit de mort. Enfin, on visualise.
Mais je pense bien. Que c'est le montage aussi d'Yvan qui a été très très bien fait. Mmh. Pourtant, il a gardé la, on va dire, la continuité dans sa façon de narrer sa relation avec Proust. Il a pas changé, on va dire, de temporalité. Mais je trouve que son montage est très finement amené dans leur relation à tous les deux. Voilà, et très visuel en réalité. Voilà.
Oui, c'est ça. Hein. Moi, j'aime bien ça. Bah, parce que tandis que vous parlez, on arrive à,
bah,
à.
C'est vivant, oui, c'est oui. très vivant.
Oui, puis il fait des parenthèses, on va dire, avec juste cette musique de Verneuil que tout le monde. Voilà. Et puis le fameux quatuor César Franck que tout le monde attend. Bon, c'est
le quatuor de César Franck.
Oui. Il y a du Forêt, et c'est vrai que ça, c'est des pauses à la fois musicales, mais qui permettent de transporter ailleurs.
Hier, je me posais la question, souvent je me suis posé la question, parce que j'ai lu un petit peu Proust, mais il y a très longtemps, cette fameuse petite musique de Vinteuil. Qu'est-ce que c'est que cette musique de Vinteuil?
Je ne sais pas, ne me demandez pas à moi. Je ne sais pas. Non, ça fait partie, c'est ce qu'elle raconte, elle pense que c'est le quatuor César Franck, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça, il faut demander à Yvan, il est très très fort.
Alors, j'ai vu, en me promenant, j'ai vu que Yvan aller lire les œuvres complètes de Proust.
Oui, au musée Henner. Il va lire à partir donc de l'heure de la mort de Proust à 16h, le 18 novembre.
À partir de l'heure de la mort de Proust.
Oui, ça commence. Et ça va durer sur 2 jours. Ça va être 16 heures de lecture, hein, quand même. Mais
avec des
arrêts. Hein. Tout le monde ira pourra aller dormir et prendre aussi des collations.
Alors,
je ne sais pas, c'est le 18 novembre. Il est mort le 18 novembre. Donc, je ne sais pas si, quel jour ça tomberait là exactement.
Le musée Henner, c'est. Bon, je trouve l'adresse. Voilà.
Je crois que c'est un vendredi, le 18 novembre.
C'est un vendredi. Ça commence un vendredi, il finit le dimanche. Et c'est Le Temps Retrouvé. Il va lire Tout le temps retrouvé.
Tout le temps retrouvé. Donc, voilà. c'est pas que...
Ah bah non, s'il lisait toute la recherche, ça mettrait une semaine, je pense.
Déjà, c'est une longue lecture.
Bah, c'est une lecture de 16 heures avec des arrêts. Il l'a bien dit, même pour lui, même pour tout le monde. Il y a des nuits où les gens pourront dormir. parce qu'on va pas quand même...
Mais lui, il va dormir quand même.
Oui, on va pas être insomniaque quand même. Mais ça va durer, voilà. Il commence à 16 heures pile, puisque c'est l'heure officielle de la mort de Proust. 16 heures, 18 novembre. Et il lit ça jusqu'au dimanche. Et ça durera en tout 16 heures, mais bon.
Et vous aurez le temps d'y assister un peu?
Je vais essayer, mais j'avoue que mes journées sont très courtes.
Ouais, oui, c'est sûr, hein,
Parce que j'ai quand même aussi une famille.
Bah oui, quand même, ouais. Il ne faut pas faire comme Céleste Albaret. Hein,
voilà. Et qu'après, bah, je suis une grande traqueuse, donc je vais très tôt au théâtre. C'est pour ça que je vous ai dit que je partirai assez tôt. Et donc voilà, donc les journées sont très courtes.
D'accord. Mais enfin bon, vous saluerez Yvan de notre part. Hein.
Oui, je ne manquerai pas.
C'est vrai que moi, si j'avais... Ah oui, il paraît qu'il y aura une retransmission sur, je sais pas, de ces 16 heures.
D'accord.
Il y aura une possibilité de
reprendre. Mais bon, voilà, vous pouvez aller au musée Henner. Je trouve que c'est toujours intéressant d'assister à des sortes de happening.
Oui, c'est happening.
J'adore
oui.
donner les mots modernes. Oui. Seul en scène, happening, voilà.
Voilà.
Donc voilà.
Bah, on a été ravis, hein, on va vous libérer, Céline.
Bonne journée à vous, merci beaucoup.
Et puis, comme on dit au théâtre, on dit... qu'est-ce qu'on dit ?
On dit merde. Et moi, je ne peux pas vous dire le mot de politesse, je peux vous dire juste je prends.
Voilà. Ah là, d'accord. Tu veux la raccompagner ?
Oui, bien sûr.
Merci, au revoir, bon courage. Au revoir.
On écoute Jean-Marie ?
Alors, on va écouter Jean-Marie, oui.
Au revoir. Viendra-t-il d'ailleurs ? Est-il vivant ou mort ? Par où commence-t-il l'auteur de cette blague au carrefour d'Antibes ? Dis-moi, quelle chanson s'étend sur d'autres rives ? Est-il vivant ou mort ? Ou simplement dans l'air ? Le ferez-vous venir ? Le ferez-vous sortir de votre chapeau avant l'artiste ? Qui galère en chantant à tue-tête. Il est porteur d'un arbre plus rayonnant encore que la jolie guitare qui drague ta mémoire. Bouclier solitaire d'une gueuse mémoire. Viendrait-il d'ailleurs celui que vous rêvez, funambule, alchimiste, nomade? Dans votre cœur, comment le voyez-vous ? Serait-il le voyou qui passe par vos nuages à travers vos mirages ? D'artiste solitaire à genoux à l'affiche, un rêve déchiré. Salué, méconnu, drapé de sentiments, c'est un polichinelle qui parle comme les autres, n'est-ce pas ? Dans sa luge de cristal, l'artiste solitaire qui lève la poussière à l'ombre d'un menhir. Mais viendrait-il d'ailleurs ? Terre et feu de mémoire, c'est sa chair consumée de grâce au présent, conjuguer le futur. L'artiste solitaire qui lève la poussière à l'ombre d'un menhir. viendrait-il d'ailleurs ? Et vous avez son nom sur le bout de la langue. De cet inconnu-là qui jouerait au silence seulement pour vous entendre au-delà des songes. Au coin de votre bouche, il mâchonne un brin d'herbe, frictionne votre rêve. Viendrait-il d'ailleurs, tel marchand ambulant d'aventures inouïes, l'artiste solitaire lève la poussière à l'ombre d'un cyprès. Viendrait-il d'ici ?
Voilà. Alors, vous venez d'entendre un poème, Viendrait-il d'ailleurs, interprété par Jean-Marie Blanche. Voilà. Avec les musiques de Tim Lazer. Alors, on va passer à la rubrique théâtrale. On n'en a pas terminé. Donc, on a un petit message, Nicolas, Pascal, il te remercie de le remplacer à la technique.
Avec plaisir, cher Nicolas, bonjour et bonnes vacances.
Voilà, exactement. Anne, donc c'est à toi. Moi, j'étais en train de regarder si j'avais aussi des flyers, des spectacles que j'ai vus. Et toi, tu vas nous parler des spectacles que tu as vus et que tu juges intéressants.
Oui, alors j'ai bien beaucoup aimé une pièce de Antoine Roux. Antoine Roux avait écrit Le Diable Rouge il y a quelques années de ça, où j'avais eu la chance de voir aussi sur scène Claude Rich. Donc la pièce s'intitule Au scalpel. C'est avec David Sardou et Bruno Salomon dans une mise en scène de Thierry Harcourt. Alors, c'est quoi Au scalpel ? C'est l'histoire de deux frères qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Ils ont chacun l'un et l'autre une profession intéressante. L'un est chirurgien, l'autre est photographe. Et le photographe que joue David Sardou vient un petit peu titiller son frère. Alors, les deux ont eu des problèmes avec leurs femmes respectives. Il y en a un qui a été l'amant de sa belle-sœur. Enfin, bref, ça n'a rien arrangé, c'est sûr. En plus de ça, David Sardou s'aperçoit qu'il y a des objets dont il aurait bien voulu hériter de ses parents. Et pour lui, l'héritage n'a pas été bien fait. C'est toujours les mêmes histoires de famille, les héritages et tout ça. Donc, mais bon, c'est aussi très drôle. C'est le cas de le dire, c'est au scalpel, c'est assez corrosif. Les deux comédiens jouent très bien. Et à un moment donné, on se dit, bon, David Sardou, ça commence à bien faire. Il est désagréable comme personnage, je parle bien entendu. Et au moment où il a bien embêté son frangin, il souhaite partir et celui-ci a fermé la porte à clé. Et comme il est chirurgien, donc il a une très jolie collection de scalpels, et il provoque un peu son frère avec un scalpel, comme pour lui dire maintenant il est à sa merci, quoi, on va dire. Donc je vous dis pas comment ça se termine. D'ailleurs, il y a un petit peu toutes les fins possibles, on peut dire. Mais c'est une très bonne pièce et vraiment c'est très très bien joué par David Sardou et Bruno Salomon. Ça se joue au Théâtre des Variétés à une heure que j'aime beaucoup, c'est-à-dire 19h, du mercredi au samedi. 19h, et ça dure une heure et quart à peu près. Mais c'est très bien, je vous le conseille vivement. J'ai vu une autre pièce aussi, alors ça aussi ça parle d'héritage, c'est un petit peu la mode. Ça s'appelle Le comble de la vanité de Valérie Fayol. Alors il y a du beau monde, il y a Michael Chirignan, Julie Farranque, Virginie Pradal, ancienne de la Comédie Française, Cécile Reboa et David Talbot. Là aussi, les enfants viennent auprès de leur mère et ils vont enterrer leur père. Et à un moment donné, ils ouvrent un tiroir, ils trouvent un testament Et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas trois légataires, mais il y en a un quatrième. Alors, ils se posent des questions. Ils posent des questions à la maman qui est un petit peu partie à l'ouest. Elle ne se souvient plus trop, mais bon, elle est toujours aussi joyeuse et charmante. Mais donc, elle finit par leur dire, le père de François, il est dans le jardin, il est sous le rosier, quoi. Des choses tout à fait, pour elle, c'est tout à fait normal. Et il y a des fils qui découvrent un crâne dans le grenier. Alors, ils commencent quand même à se poser des questions. À qui ça appartient? Qu'est-ce que c'est? Alors, ils vont faire des tests ADN pour savoir qui est vraiment le fils ou la fille de son père, quoi, de toute façon. Mais bon, ça, c'est... Il y a des choses qui sont très drôles. Tous les comédiens jouent vraiment très bien, dont Virginie Pradal. Et ça aussi, je vous conseille cette pièce qui se joue au Théâtre de la Pépinière du jeudi au samedi à 19h ou 21h. Alors là, il faut voir sur le site à quel moment ils jouent. Et le dimanche à 15h. Et là aussi, ça dure 1h30 à peu près. Alors, dans les... pièce moins drôle, mais bon, tout aussi bien jouée d'ailleurs. Le journal d'une femme de chambre, avec Lisa Martineau, qui a été mise en scène par Nicolas Briançon. Alors, le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. C'est quoi? C'est l'histoire de Célestine qui raconte ses différents emplois, ses différentes venues avec ses bourgeois qui s'appellent les Lanlaires en plus. Donc elle est très drôle, Lisa Martineau. Et elle, au lieu de faire de l'effeuillage, on va dire, c'est le contraire. Elle sort de sa baignoire et petit à petit, elle se rhabille et elle devient la femme respectable dont elle a toujours rêvé. Mais une femme qui agira comme les bourgeois qu'elle critique, en fait. Et ça aussi, c'est un très bon seul en scène ou un très bon monologue, comme dirait Céline Samy. Voilà. Et ça se joue au Théâtre de la Huchette du mardi au samedi à 21h, après les cultissimes pièces de Ionesco. Il faudra d'ailleurs que j'y retourne. J'aime bien la leçon et puis la cantatrice chaud. J'y
retournerai. Ah, mais moi aussi, j'y retournerai bien. Tiens.
Ouais, moi aussi.
Ouais. Mais on ira ensemble parce que je ne connais pas l'attaché de presse. Oui.
D'accord, on ira. Ouais. Ok, donc le journal d'une femme de chambre que je vous conseille vivement. Et j'ai vu au Théâtre de la Contrescarpe Zola l'Infréquentable. C'est le texte et la mise en scène de Didier Caron avec les excellents Pierre Azéma et Bruno Pavio. Donc, l'histoire, c'est la rencontre entre Émile Zola et le fils d'Alphonse Daudet, Léon Daudet, qui, lui, était un antisémite notoire, raciste, enfin, tout ce que vous préférez, et qui revient de l'école militaire où on a dégradé Dreyfus. Donc, il y a un dialogue percutant et ça aussi c'est très intéressant parce que Zola qui connaît depuis très longtemps Léon Daudet, qui le connaît depuis qu'il est tout petit, alors il y a une façon de jouer, de mettre en scène, on entend ce que dit Zola, on entend ce que dit Léon Daudet, et c'est quand même très drôle parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment pas se sentir tous les deux. Donc, il y a un duel verbal rude. Et Zola finira par écrire « J'accuse ». Et être obligé aussi de s'enfuir en Angleterre. Donc, là aussi,
C'est historique, c'est intéressant.
C'est très intéressant.
Moi, je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est très intéressant.
Oui, oui. Vous pouvez donc courir vite fait au Théâtre de la Contrescarpe. C'est un petit théâtre que j'aime bien aussi. Et alors, c'est à 21h du mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, c'est 20h30. Le dimanche, c'est 16h30. Voilà, donc vous pouvez aussi courir voir Zola, l'Infréquentable, au Théâtre de la Contrescarpe. Voilà, c'est donc... J'ai fini ma chronique, ma chère.
Alors, je vais annoncer que le dimanche 13 novembre, à partir de 16h, à la librairie Publico, il va y avoir un récital de chansons et poésie anti-militariste. Alors au programme, que des bonnes chanteuses et bons chanteurs. Nathalie Salens, Pascal Loquin, Monica Jornet, Marc avait Nicolas Duclos et Bruno Daraki.
Et Pedro Fidalgo aussi, voilà.
Ah, il n'est pas sur le...
Il n'est pas marqué.
Non, il n'est pas marqué.
En fait, c'est dans le cadre de la semaine antimilitariste et pacifiste organisée par la Fédération anarchiste et l'Union pacifiste. Il y a beaucoup d'événements du 8 au 13 novembre. Donc, je vous invite, nous vous invitons à consulter le site de Publico où tout sera indiqué. Voilà, il y a le 11 novembre, il y a l'Union pacifiste qui présentera ses activités, qui parlera de ses combats. Et le 8, il y aura, c'est l'expo de dessin de Claude Guesne. Voilà, donc il y a le vernissage. Il y aura un film débat, je crois, je ne sais plus quel jour, sur l'Algérie. Enfin, il va y avoir pas mal de choses. Je vous invite donc à consulter le site de Publico.
Voilà. Et donc là, justement, donc dans le cadre de cette semaine antimilitariste, donc le 13 novembre, il y a ce récital et on va écouter une chanson de Nathalie Solens qui participe à ce récital.
Regarde-moi, je suis la guerre. Vous m'avez chassé la dernière fois. Ne vous inquiétez pas, je reviens toujours un jour. J'ai sur la terre tellement d'amants que je ne peux pas faire autrement. Je suis une vraie fille à soldat, un peu bohème quand même. Moi, la vie, c'est une insulte, comme on dit quand on est adulte. Ce qu'il leur faudrait, c'est une bonne pute. Et me voilà, c'est moi. Je pèse aux gens quand je m'acharne, au ventre leur faire des lucarnes, à moins qu'on ne les exécute quand ils ne veulent pas de moi. Regarde-moi, je suis la guerre. Je suis séduisante et prospère. J'ai toujours pour me faire la main des gens qui ont raison. Pour peu qu'ils soient bien convaincants, je leur file mon sac avec dedans quelques fusils, quelques habits. Ils deviennent comme des hommes. Un peu chatte, un peu viscéral, je m'étale et je deviens mondial. Pour un bout de terre, un capitaine. Les hommes au fond, c'est con. Il suffit pour qu'ils soient au rap de leur parler de juifs ou d'arabes, qui sont comme les zones érogènes de la victoire en chantant. Regarde-moi, je suis la guerre. Je vis en paix dans vos ulcères. Avec fanfare et monument, c'était vraiment bon temps. Pendant la paix, prépare-moi un bon matelas de guérilla, des trucs vachards qui proprement mettent le sang sur les murs. Demain j'aurai dans les étoiles des ressources intersidérales. Suffit que la gueule des indigènes ne vous revienne pas déjà. Je me prépare au merveilleux roman d'amour qu'au fond des cieux nous vivrons si je me déchaîne. En attendant, j'attends. Regarde-moi, je suis la guerre. L'amour, c'est fou ce que ça fait faire. Mieux qu'une femme, quand tu me prends, je suis fidèle, pas elle. Regarde-moi, je suis la guerre. Je suis la femme qu'on préfère, pour laquelle on fait des enfants qu'il aime en grandissant.
Alors,
eh bien, c'est moi qui interviens. Donc, tradition oblige.
Yeah.
Voilà, voilà, voilà. 89.4, Radio Libertaire. Bonjour, auditeurs, auditrices. Bon, sans vouloir faire de la publicité, j'ai devant moi une revue scientifique que la maman de mon fils dirige, qui s'appelle Science et Avenir. Et j'invite donc les auditeurs et auditrices de Radio Libertaire d'aller voir, parce qu'il y a un grand travail sur l'avant Big Bang, des millions d'années avant.
D'accord.
Voilà, donc ça serait très intéressant d'aller voir et s'informer, donc c'est toujours très nourrissant.
Mais si, si, il faut faire la pub, hein, t'as raison.
Absolument.
Allez.
Alors, sinon, donc comme mon invité de Colombe, monsieur, comment il s'appelle, Ferid Zerzour, n'a pas pu venir malheureusement pour des raisons
indépendantes de sa volonté.
Indépendantes de sa volonté, voilà. Donc j'ai quand même un texte qui était censé mettre en scène au théâtre Calam à Colombes. Donc je vous donne l'adresse quand même. C'est 193 rue des Champerons, voilà, 92-700 Colombes. Et ça serait éventuellement au début de l'année prochaine, c'est-à-dire c'est pour mai 45. Donc actuellement, nous sommes en plein commémoration d'octobre 45 et d'octobre 61 également, voilà, qui a eu donc les Algériens qui ont été jetés par Maurice Papon à la Seine, etc. Et donc, je vous lis un texte de Kateb Yassine, qui devait justement intervenir dans cette mise en scène-là, sur la guerre. Alors, voilà ce qu'il dit. La guerre, c'est le rationnement. Tout était rationné, tout était marché noir. Il y avait la famine. Et je ne sais pas si on imagine vraiment ce que veut dire la famine, mais moi, j'ai vu de mes propres yeux un homme mort de faim, à Sétif, dans la rue. Il était à moitié nu, parce que on ne pouvait même pas de quoi trouver s'habiller non plus, et on trouvait strictement rien, absolument rien. C'était la misère la plus noire. Il y avait d'ailleurs la misère même d'autres choses, des épidémies par exemple. Il y avait une épidémie de typhus terrible au village où j'étais, près de Sétif. Enfin, les gens allaient au cimetière plusieurs fois par jour. On mourait par famille entière, parce que toutes les familles étaient décimées, vraiment. C'était une épidémie qui a fait beaucoup, énormément de victimes. La misère, bon, ces épidémies-là. Et puis, tout d'un coup, l'annonce d'une victoire, qui devait se concrétiser par un changement ou une grande espérance. C'était de voir l'Algérie se libérer en même temps que la France et établir avec elle d'autres liens que des liens coloniaux. Alors, donc, il y a un petit commentaire de René Vautier, mais je vais vous le lire quand même. René Vautier qui dit « Mais pour les tenants du colonialisme, il est hors de question que changent les liens coloniaux. Pour eux, ces soldats algériens, rescapés de la campagne d'Italie, de la campagne de France, de la campagne d'Allemagne, il faut bien leur faire comprendre, dès leur retour à Alger, qu'ils se sont battus pour la liberté des autres, mais pas pour la leur, pour bien marquer qu'en Algérie, rien n'est changé. L'administration coloniale entend avant même que cesse la joie populaire de frapper un grand coup. » Voilà. Kateb Yassine qui répond. Lorsque je suis sorti du collège le mardi 8 mai 45, parce que nous avions l'autorisation de sortir, c'était un jour de fête. Il y avait les cloches chrétiennes bien sûr, qui sonnaient. Il y avait même des officiers qui buvaient du champagne, tiens, sur le trottoir. C'était d'un côté dans le centre, puisque le lycée était au centre, une atmosphère de joie, une atmosphère. Cette atmosphère-là a totalement changé, parce que j'ai compris plus tard, mais enfin, il y a eu un élément nouveau, c'était le défilé du 8 mai 45 à Sétif, qui était vraiment imposant, parce que il faut savoir que le mardi était jour de marché à Sétif, il y a énormément de paysans, il y a des communes très peuplées, tout entières, tout autour, et il y a énormément de gens un jour de marché à Sétif. Les paysans étaient désarmés. C'était une immense foule, et devant la foule, il y avait les scouts, bien sûr, les scouts musulmans. Et derrière les scouts, les étudiants, dont certains étaient des camarades d'ailleurs. Et ils m'ont fait signe de les rejoindre. C'est comme ça que j'ai participé à la manifestation avec les étudiants. Mais nous avons tout juste fait quelques pas, et puis il y a eu des coups de feu. Oui, des coups de feu. Le cortège a reflué, il y avait même des enfants écrasés, puis c'était la panique. On ne pouvait même pas comprendre ce qui se passait, absolument pas. On voyait bien que c'était très grave, mais j'ai pris la décision de rentrer, moi, dans mon village, parce que mon père était malade, voyez-vous. Quand l'armée est arrivée, il y a eu des scènes de viol, mais ça, je l'ai su bien après. Bref, l'armée a occupé le village, la région, et puis le 13 mai, on est venu me chercher à la maison. C'était des civils. J'étais arrêté et on m'a conduit à la gendarmerie. Ensuite à Sétif, au camp d'artillerie. Nous étions quelque chose comme 6 000 Algériens de cette région-là. Et il y avait... Moi, j'étais jeune. J'avais 15 ans à peine. Mais il y avait encore plus jeune que moi. Il y en avait qui avaient 12 ans. Des gosses qui avaient été ramassés. C'était une sorte de coup de filet, quoi, à la gendarmerie, par exemple. Dans le village, on avait vu des corps, on avait vu des cadavres pour arriver à la gendarmerie. Et puis, on a entendu des coups de feu, souvent, surtout la nuit, tout près. Alors, tout le monde pensait qu'on allait être liquidé, bien sûr. Liquidé. Bon, les gendarmes et l'armée emmenaient tout le temps de nouveaux prisonniers, et on comprenait bien qu'il y avait une vague de répression qui s'était poursuivie après. Et c'était à Sétif, surtout à Sétif. Quand on arrive au camp, quand nous avons commencé à avoir quelques informations et à comprendre toute l'ampleur du massacre. Et là, il y a René Vautier qui intervient, comme toujours, puisqu'ils étaient ensemble. Face aux 103 morts européens, l'administration coloniale, 1150 morts algériens, victimes de la répression. Mais si le bilan des morts européens reste stable, le chiffre des morts algériens s'alourdit vite. 7500, je crois, dit-on, à l'état-major du général Duval. La commission présidée par le général Thubert arrive à 15 000 morts. Mais rappelez, avant d'avoir terminé son décompte, la commission algérienne et une commission de l'ambassade américaine arrivent à peu près à un chiffre commun entre 40 000 et 45 000 victimes algériennes. Cathy Biesing qui répond. Eh oui, c'était vraiment un massacre, un grand massacre. Et il faut comprendre qu'il n'est pas dû au hasard, non. Il est seulement lié à l'histoire entre l'Algérie et la France. Puisque ce massacre-là, le même, et peut-être encore plus ample, s'est produit à Madagascar, la même année, et en Indochine aussi, oui, en Indochine aussi. C'était la même politique qui a conduit à ces massacres-là. Puisque, en Indochine, le bombardement de Haiphong, le revirement du gouvernement français avec le bombardement, l'amiral Juan Le, qui traduisait un changement total de la politique française, puisque après le discours de Brazzaville, de Gaulle, on pensait que le gouvernement de la France, libre, serait pour l'émancipation des colonies. Et il y avait des espérances, des illusions dans ce sens. On parlait d'Union française, et quand on a vu le massacre, quand on commençait à avoir des nouvelles de ce qui s'était passé, par exemple pour ma part, moi j'étais de la région de Sétif, mais j'avais une grande partie de ma famille à Guelma, et on avait appris là que les massacres avaient été extraordinairement sauvages. Ils voulaient vraiment nous anéantir, oui. Et d'ailleurs, les plus cyniques disaient « Bon, ben comme ça, maintenant on aura la paix pendant 10 ans, tiens, au moins ». Ce qu'il faisait, c'était qu'il voulait atteindre avant tout la jeunesse algérienne. Cette jeunesse qui relevait la tête. On sentait qu'il relevait la tête. Et à Guelma, par exemple, il se présentait avec des camions au domicile. J'ai eu beaucoup de camarades d'école, des jeunes que je connais très bien, qui avaient le même âge que moi, oui. Et beaucoup d'autres qui ont été complètement ramassés, liquidés, froidement exécutés par les milices. Ces milices étaient des milices de colons, bien sûr, mais elles agissaient en rapport étroit avec l'armée. L'armée, ça a été vraiment la boucherie, d'autant plus que ça a été très loin. On n'aurait jamais soupçonné autant de haine. C'est vraiment que la haine a existé des deux côtés, mais c'est vrai, elle, là, elle a existé aussi. Le plus, c'est du côté des colonialistes. Par exemple, quand on brûle un greffier qui avait 9 enfants à Karata, là où ils l'ont brûlé en versant de l'essence devant ses enfants, bon, moi, j'ai eu un parent qui a été tué avec sa femme enceinte. Justement, l'histoire de ce parent prouve qu'on ne peut même pas être neutre, parce que ce parent-là, lui, il était neutre. Il n'était même pas engagé politiquement, non. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la pêche, à la ligne. Il travaillait à l'école d'agriculture. Il faisait très bien son travail, puis il allait à la pêche. Puis voilà, quand il y a eu les événements, quand la milice de Guelma s'est formée, on est allé le prendre et on lui a dit « Prends un fusil, on va tirer et on va tuer les Arabes ». Lui, il a dit « Non, 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 pourquoi ? Pourquoi je vais tuer les Arabes ? Ils m'ont rien fait, j'ai rien contre eux. Bon, à ce moment-là, on l'a immédiatement fusillé. Sa femme l'a entendu tomber. Elle est venue enceinte en criant « Ils l'ont tué, ils l'ont tué !» Son fils, pareil, dans toute une région, c'était comme ça, systématiquement. Le gouvernement général, c'était un socialiste. C'était le gouvernement de De Gaulle et c'est là qu'on a vu déjà l'armée dépasser le gouvernement, le mettre devant le fait accompli, procéder au massacre et par là même confisquer le pouvoir aux civils. Oui, ça, on ne l'a pas encore compris en 1945. Ce qui s'est passé ce jour-là, je crois que ça a été, on pourrait appeler ça, les illusions perdues. Nous avons, et on a perdu l'illusion, que nous pouvions avoir l'indépendance. Comme ça, octroyé d'en haut. Oui, comme un cadeau des Français de gauche. Quant aux colonialistes, eux aussi, ils ont perdu au moins une illusion parce que ils pensaient que par ce grand massacre, ils auraient la paix pendant 10 ans. Oui, mais quelle paix. Merci.
Dis au revoir à l'histoire et arrête de pleurer. Tu verras qu'un de ces soirs, le loup ne va plus s'en tirer. C'est parfois vrai dans l'histoire qu'on peut tout oublier, mais c'est aussi l'enfance de l'âme que de vouloir s'y réfugier. Vas-y, tonton, raconte ton histoire, même si c'est un peu long. T'inquiète, je vais m'asseoir. Oubliez la grisaille qui fait de chaque jour un jour sans ripaille et de plus en plus lourd. Mais heureusement, il y a l'espoir qui nous fait oublier tous ces jours de nuit noire auxquels on veut échapper. Vas-y, tonton, raconte ton histoire, même si c'est un peu long. T'inquiète, je vais m'asseoir. Dans un fond de tiroir, il restera toujours un enfant pour demander une histoire. Il sera toujours temps de lui dire que l'espoir est partout dans les champs. Et pour la petite histoire, c'était pas mieux avant. Même si c'est un peu long, t'inquiète, je vais m'asseoir. L'histoire a prouvé qu'il faut être vigilant si on ne veut pas oublier toutes ces horreurs d'avant, mais aussi tous ces rêves d'enfants. Et faites qu'en ce domaine, il n'y ait pas à nouveau du vent, et qu'on n'ait pas les pieds qui traînent.
n'oublierai pas ton histoire. Je ferai gaffe que l'horizon puisse voir dans le noir. Bah, ne pleure pas. Je connais une belle histoire, même une plus belle que ça. Celle qui dit qu'il faut y croire. C'est presque un conte de fées, celui de ta naissance, qui nous donne l'envie de changer, peut-être aussi de retomber en enfance. Tu vois, c'est long, mais c'est aussi ton histoire. Et puis, dans le fond, tu vaux sûrement mieux qu'un fond de tiroir. Il est de belles histoires qui parlent de la vie. Ne les mettez pas au placard. Il y a de belles chansons aussi. On voudrait qu'elles soient sans fin, tant elles font aimer la vie, même les jours sans pain. Le soleil a le cœur qui lui. C'était pas si long, je raconterai cette histoire, j'y mettrai le ton pour qu'elle reste dans nos mémoires.
Ben merci Pascal, c'était une chanson de toi, hein, il faut le dire quand même.
Oui, c'est... ben, disons, je trouvais qu'après le texte de Moa, ça collait bien, je trouvais, voilà.
D'accord. Merci beaucoup.
C'est, la chanson est de toi, la musique aussi.
Oui, tout est de moi, ça s'appelle Histoire sans hystérie. Voilà.
D'accord.
Et la chanson de Nathalie Solange tout à l'heure, c'était Regardez-moi, je suis la guerre. Voilà.
Ben, je continue sur ma lancée, donc, puisqu'on est en plein commémoration du 17 octobre 61. J'ai été invité le 17 octobre, justement, après une organisation par Radio Beurre à l'Assemblée nationale, justement, pour lire et témoigner de ce jour-là, de ce massacre-là. Et encore une fois, on m'a demandé de lire un texte qui s'appelle « La gueule du loup » de Katabiesine, qui dit « Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine, rougissante, n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune ses corps martyrisés, qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire? Alors descendant dans les rues, beau et complètement nu, et ainsi en étant à notre avantage, que nous obtiendrons le meilleur éclairage, chantant à haute voix sur les toits, n'attendant pas d'être aux abois, n'attendant pas que le destin nous dérange, nous ne serons jamais des anges. Prenons-le à bras-le-corps, défions même la mort. Allons jusqu'au bout de nos rêves, là où jamais ils ne s'achèvent. Voilà, c'était donc à l'Assemblée nationale, et ça a été vraiment beaucoup apprécié. Et c'était organisé par Radio Beurre, dont le président Nasser Ketan, qui était présent aussi. Voilà, que j'aimerais un jour inviter à Radio Libertaire. Voilà.
Alors, pour faire écho à cette journée là du 17 octobre, la commémoration de l'année, tu as l'année 17
octobre
1961. Voilà. Et ben justement, j'ai assisté à un spectacle au théâtre de Belleville, qui est 94 rue du Faubourg du Temple. Un spectacle qui est mis en scène par une metteur en scène belge, mais elle est metteur en scène belge, mais il se trouve qu'elle est d'origine tunisienne et italienne. Voilà. Et dans un spectacle qui s'intitule Final Cut, Elle raconte son histoire parce qu'en fait, donc, elle est le fruit d'une histoire d'amour entre un Tunisien et une Italienne, mais enfin une Française d'origine italienne. Et ça s'est passé pratiquement au moment de l'indépendance de la Tunisie. Et aussi, en même temps aussi que ce fameux 17 octobre, parce qu'elle est née en 61, exactement. Mmh. Donc, elle parle de son histoire, de la famille de sa mère qui refusait le mariage de leur... Le mariage d'une Italienne avec un Tunisien. Et en définitive, bon, l'enfant est né, et c'est la personne qui fait le spectacle, Myriam Sadoui. Elle est née, mais peu de temps après, son père et sa mère se sont séparés parce que la famille de sa mère refusait d'accepter qu'il y ait... Parce que à l'époque, ça se passe, c'est post-colonial, hein, c'est à l'époque post-colonial, il faut bien dire que c'était un déclassement que d'épouser un colonisé. Voilà. Et donc, c'était un déclassement. Les colonisés étaient considérés comme des personnes inférieures. Et d'ailleurs, il y a un texte dans la pièce qu'elle reproduit, c'est un texte de Jules Ferry. Il fait un discours et pour glorifier le colonialisme et il dit, vous vous rendez compte, ils ont besoin de nous, ces gens-là. Ils font partie des races inférieures. Donc nous, mais c'est textuel, hein, c'est textuel. Donc il faut absolument qu'on les aide et qu'on les colonise parce que sinon ça va être la... Enfin bref, n'importe quoi, quoi. Mais le problème, c'est que ce genre de discours est devenu... Les colons, ils trouvaient ça très bien, très 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 bien. Et de telle sorte que c'était les mariages entre colonisés et colons, c'était très très très... très difficile, mal accepté. Celle qui fait le spectacle, Myriam Sadoui, elle raconte comment...
Ça continue encore ?
Voilà. Elle raconte comment sa mère a fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit séparée de son père. Voilà. Et elle l'a même fait expulser. Mmh. Elle a œuvré pour que son propre père soit expulsé parce qu'elle ne... Elle voulait faire la coupure entre la fille et le père. Et c'est donc très, très douloureux. Enfin, elle raconte cette histoire et elle parle aussi des méfaits du colonialisme, quoi, parce que c'est consécutif.
Jusqu'à quand, la pièce ?
Alors, c'est au Théâtre de Belleville. Et donc, puisque moi, je regarde ça sur mon portable, mais il s'éteint tout le temps. Je vais finir par le critiquer. Alors,
ceci dit, c'est pas prêt de changer maintenant qu'il y a l'extrême droite en Italie. Hein. Ça va être pire en pire.
C'est-à-dire que ce sont des Italiens, ce sont des Français d'origine italienne. Ouais, voilà. Ouais. Elle est italienne, mais... Enfin, elle est d'origine italienne, mais elle est française. Voilà. Et donc, c'est au Théâtre de Belleville. Alors, je vais te dire ça... Je lis ça sur mon portable, hein, parce que je n'ai pas d'autres moyens. Donc, 94 rue Vieille du Temple. Ça dure quand même une heure et demie, mais l'artiste joue vraiment très bien, de façon très sobre. C'est très intéressant, mais c'est éprouvant aussi. C'est assez... ça fait mal, quoi, de penser que cet enfant... a été séparée de...
Il y a combien de comédiens là-dedans ?
De son père, mais elle est toute seule. Sauf à un moment donné, il y a quelqu'un qui joue une scène de la mouette de Tchekhov dans le cadre du spectacle. Mais pendant la durée du spectacle, quasiment, elle est toute seule. Donc, ça s'appelle Final 4. Alors, je vais sur le site programmation. C'est aussi 16. Il y a deux adresses. 16 passage Pivert et 94 rue Vieille du Temple. Je sais pas pourquoi, ça, j'ai l'impression que ça a changé de dénomination d'adresse. Mmh. Voilà.
On peut peut-être passer quelque chose.
Et on va passer Jean-Marie Blanche. Comment ça s'appelle? Soleil Levant.
Sinon, entre-temps, là, j'ai vu une pièce d'Aimé Césaire à la Cartoucherie. Très intéressante, le retour au pays natal d'Aimé Césaire. Mmh. Vraiment, par un comédien africain. Une sorte de one-man show, quoi. Très, très intéressant. Je vous invite aussi à aller le voir. Voilà.
À la Cartoucherie ou à la...
Soleil Levant. Fusillés de la terre par nos canons ardents, dans l'errance d'un ciel tombé de l'Antarctique, de ces anses stellaires dressées de fanatiques, le goudron des usines à la couleur du sang, étoiles du désert, des stèles à venir. Sous le manteau de neige s'ouvre le télescope. Albatros et condors et pélicans d'échoppe. Saisissez les couleurs de l'automne à rougir. Enfants de la gargote, accrocherez le vent à ouïr vos désirs d'affoler de plus belle. Voulons sur la litote ouvrir grand vos ombrelles. Sachez vous réunir sous le soleil levant. Avenir de la vie au plus triste serment, à l'ombre d'un soupçon de chance dans le ciel, offrez à vos enfants, au lever du soleil, l'envie de découvrir le plus beau des printemps.
J'en ai un tout petit. Alors, le spectacle, il est... Oh, ça a encore sauté. Jusqu'au 27 novembre 2022, et c'est à 19h. Voilà. 19h, c'est pratiquement tous les jours, sauf le dimanche, c'est à 15h. Sinon, à partir du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à 19h. Voilà. Et c'est jusqu'au, je l'ai dit déjà...
Fin novembre.
Voilà, 27 novembre. Mais franchement, c'est très intéressant. Mmh. Pour ceux qui ont une histoire... parce que quand même... maintenant, je pense, il y a eu beaucoup de couples mixtes. Hein, je ne connais pas toute l'histoire, effectivement. Il faut faire... justement, c'est... Elle raconte quand même la difficulté aussi des couples mixtes pour s'intégrer, pour vivre, et puis la difficulté pour les enfants aussi, ensuite d'assumer les problèmes de leurs parents, quoi. Voilà, donc on va écouter une chanson.
Oui, alors c'est « Va danser », un texte de Gaston Coutet, dit par Bruno Daraki, qui fera partie de la programmation donc du 13 novembre.
D'accord.
Au mois d'août, en fauchant le blé, on crevait de soif dans la plaine. Le corps en feu, je suis allé boire à plat ventre à la fontaine. L'eau froide m'a glacé les sangs, et je meurs par ce tendre automne où l'on danse devant la tonne durant les beaux jours finissants. J'entends les violons, Marie, va petite que j'aimais bien. Moi, je n'ai plus besoin de rien. Va t'en danser à la frairie, j'entends les violons Marie. Veux-tu bien me sécher ces pleurs, les pleurs en laidissent les belles, mets ton joli bonnet à fleurs et ton devantier en dentelle, rejoins les jeunesses du bourg, au bourg où l'amour les enivre, car si je meurs, il te faut vivre, et l'on ne vit pas sans amour. J'entends violon Marie, va petite que j'aimais bien. Moi, je n'ai plus besoin de rien. Va-t'en danser à la frairie, j'entends les violons Marie. Entre dans la ronde gaiement, choisis un beau gars dans la ronde et donne-lui ton cœur aimant qui resterait seul en ce monde. Oui, j'étais jaloux cet été quand un autre t'avait suivi, mais on ne comprend bien la vie que sur le point de la quitter. Que j'aimais bien. Moi, je n'ai plus besoin de rien. Va-t'en danser à la frairie, j'entends le violon Marie. Après ça, tu te marieras, et quand la moisson sera haute, avec ton homme aux rudes bras, moissonnant un jour côte à côte, vous viendrez peut-être à parler, ému de pitié grave et sobre, de gens qui moururent en octobre, d'un mal pris en fauchant les blés. J'entends les violons, va petite que j'aimais bien. Va-t'en danser à la frairie, j'entends le violon Marie.
Alors, une voix anonyme déjà pour commencer. Ah, ils les foutent à la scène, bordel. Il y a eu la journée du 17 octobre et celle d'avant. Et puis celles d'après aussi, les cadavres dans la Seine, et les cadavres dans les bois. Mais aucune enquête sérieuse, aucune n'a été faite. Oui, aucune sanction prise, rien. Vous parlez d'octobre 17 ? Eh bien moi, je parle du 17 octobre. Paris 61, 17 octobre. On est à l'heure grise, où le pays se met à table en disant... Tiens, c'est l'automne. Lorsque, silencieux, venus des bidonvilles, Cagna, des Algériens français, sur le soir, envahissent de leur foule, entêtés les boulevards, ils n'aiment pas ce couvre-feu, qui les traite en coupables. Décidément, ça fait trop d'Arabes qui bougent. Le pouvoir envoie des flics, oui, des flics, sur tous les ponts. Oui, nous montrer qu'à Paris, l'ordre règne. Il pleut sur les marcheurs et sur les casques. Il va bientôt, oui, sur les cris, pleuvoir sur le sang. Le sang. Et puis sur Arsène Boulanoir, vous connaissez, battu, puis jeté à l'eau, en chemise, sans connaissance, vers Notre-Dame, il fait noir. Le choc le réveille, il nage. La France, elle, elle en est à la soupe. Et puis sur Bachir aussi, Bachir Haïdouni, pris avec d'autres marcheurs, lancés dans l'eau froide, allés simples, et de leur douar jusqu'à la Seine. Bachir seul retouche en quai, la France, elle, elle en est au fromage. Et puis sur Kébash, avec trois autres qui tombent depuis le pont d'Alfortville, on leur a cogné moins fort, puisqu'il en remonte. Les frères, où sont-ils passés, les frères? La France, elle, elle en est au dessert. Et sur les quatre ouvriers menés d'Argenteuil au pont Neuf, pour y être culbuté dans l'eau noire, en souvenir de nous, un seul va survivre. La France, elle, elle en est à rôter. Et sur les 30 à Nanterre, rouée de coups précipités depuis le pont dit du château. 15 à peine, oui, à peine, oui, à peu près, vont au fond, tir à vue, bien sûr. Tir à vue sur ceux qui gagent, ceux qui nagent, là-bas au fond. Tir à vue, la France, elle, toujours, elle est bonne à dormir. Merci.
Merci, moi. Merci. Voilà, l'émission se termine. Voilà. Et merci. Donc, à la semaine prochaine.
T'as bien capté, Bulvoir, tu libertaire, radio libertaire. On va parler de polar, tu libertaire, radio libertaire.
De 17h à
19h, baby.
Ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Joe Libertaire.
T'as bien capté, Bulle Noire, Tur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de Paula, Tur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures.
Baby,
faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters. Radio Libertaire.
On va parler de Paula, Tur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr tu es sur 89.4.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Radio Libertaire 89.4, et eh bien aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Cheng Kuifan, je ne sais pas si je prononce bien, en tout cas pas à la chinoise certainement, qui vient de publier aux éditions L'île de Rivage, L'île de Silicium. Dans le même temps est publié par les éditions Les Arènes, Intelligence Artificielle 2042, 10 scénarios pour notre futur, qui est un fort volume écrit avec Kai Fu Lee. Alors, Cheng Kuifan écrit des nouvelles autour de l'intelligence artificielle. Et Kai Fu Lee, a des explications plus ou moins scientifiques, enfin plutôt scientifiques, autour de l'intelligence artificielle. Mais avec Cheng Kuifan, on va surtout parler de L'île de Silicium, qui est un roman d'anticipation. Bonjour.
Bonjour.
Chen. On t'appelle pas d'ailleurs forcément Chen. Je crois que tu te fais appeler aussi par un autre nom.
Do we call you Chen or you call by another name?
You can call me Stanley or
Chiu Fan. So Chen is my family name.
Yes.
So it's a little bit confused sometimes.
Ok. Alors, tu es né en 1981 à Shantou, Guangdong, je ne sais pas si je prononce bien,
oui.
Qui est situé sur la côte est de la Chine. Est-ce que le fait d'être né dans cet endroit particulier de la Chine, est-ce que ça a déterminé quelque chose, ça pouvait déterminer quelque chose dans la suite de ton évolution personnelle.
So does the fact of being born in this region, did it have an impact on your future trajectory? I would say this